Votre émission d'actualité jeux vidéo, Burger Games spécial E3.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Et je suis avec Stalas.
Salut à tous.
Et je suis moi-même, Typo. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas avec Nightis, qui n'est pas là pour cette émission spéciale. Elle est des fois pas là. Il peut arriver dans le futur qu'un de nous trois ne soit pas là aussi. Enfin, nous deux, du coup, maintenant. Ça arrivera comme ça. Mais on est quand même là pour vous fournir l'émission qu'on vous a promis, parce que c'est quand même le plus important de tenir ses promesses, n'est-ce pas Stalas?
Tout à fait, on se tient à respecter nos promesses.
D'ailleurs, t'avais dit que tu devais me verser 250€, je t'attends toujours.
Ouais, et j'attends toujours mon éléphant rose.
Ah ouais, enfin bref, dans cette émission, de quoi allons-nous parler Stalas?
Alors, pour cette émission spéciale, nous allons parler de l'E3 qui s'est déroulé, l'E3 2019, qui s'est déroulé entre le 11 et le 14 juin 2019. Donc ça compte pas les pré-conférences. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'E3, déjà ce que ça signifie Electronic Entertainment Expo. Donc l'exposition des sociétés électroniques. Donc,
E3 pour...
Voilà, c'est ça.
Enfin, il y a trois fois l'E3. C'est pour ça qu'il y a trois...
C'est ça, ils sont pas trop fouillés sur l'acronyme. Alors, en général, c'est une conférence, enfin c'est une exposition qui a lieu début voire mi-juin. Là par exemple, ça s'est déroulé du 11 au 14 juin, j'arrive, c'est arrivé un peu plus tôt. Sauf dans ses premières années de vie où ça a été pas mal changé, mais c'était plutôt en mai. Maintenant, depuis 10 ans, c'est en juin. Alors ça se tient à la LA Convention Center à Los Angeles. Ça dure en général 3 jours, donc c'est 3 jours de la semaine. Il y a des conférences pré-E3 en fait, où c'est les gros constructeurs de jeux, Sony, Nintendo, Bethesda, Devolver, enfin ce qu'on va vous parler après, qui font des conférences pour annoncer déjà leur prochaine console, leur prochain jeu ou autre chose qui les concerne. C'est organisé par l'Entertainment Software Association, et alors c'est une exposition qui a fêté aujourd'hui ses 24 ans puisqu'elle a débuté en mai 1995.
Là, tu sais que... Bon, je vais donner mon âge, tant pis, mais c'est le même âge que moi. Donc, voilà.
Bah, c'est mon âge aussi.
Ouais, c'est vrai.
Et oui,
d'ailleurs,
c'est mon âge.
On souhaite un bon anniversaire à Stalas, parce que c'est aujourd'hui son anniversaire, le jour où on enregistre. Mais c'est aujourd'hui son anniversaire, donc joyeux anniversaire Stalas. J'attendais le moment pour pouvoir le caser dans l'émission. Je suis content.
Merci bien. Donc juste rapidement, c'est quand même une des plus grandes conventions de jeux vidéo et d'électronique. À ses débuts, on comptait dans les 30 000, 40 000 visiteurs. Dans son année la plus haute, elle allait compter jusqu'à 60 000. Il y a 2-3 ans où ils ont stoppé l'accès à certains types d'entreprises. Ça s'est drastiquement cassé la gueule en passant de... Je crois que l'année d'avant c'était 49 000, ils sont passés à peu près 10 000 visiteurs. C'est quand même bien cassé la gueule. Depuis qu'ils ont changé leur cap pour donner l'autorisation à tout le monde de passer, on est repassé sur les 49 000. Je crois que cette année on comptait à peu près 50 000 visiteurs. Voilà. Juste une histoire rapide de l'E3, pour que vous soyez au courant de ce que c'est.
Ok, bah merci Stalas pour toute cette présence sur l'E3. C'est un peu notre Wikipédia. Et donc, d'ailleurs, si jamais vous avez une définition, vous connaissez pas le mot, enfin un mot, vous connaissez pas ces définitions, hashtag Stalas, hashtag Restogeek, hashtag Stalas, pour vous répondre. On prend en sortie, ouais. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons donc parler des plus grosses conférences qu'il y a eu. Après, c'était des conférences directement sur scène ou un peu plus entre eux, certains. Donc, on va juste faire un résumé de tout ça, on va essayer de le faire le plus rapide possible. On verra bien ce que ça va donner, on a essayé de faire ça vraiment concis, donc vous n'aurez pas toutes les infos, mais vous aurez les maximum d'infos intéressantes pour nous. Et quoi qu'il arrive, on vous mettra dans la news sur le site et peut-être sur la vidéo YouTube un lien vers un Google Doc avec la liste de tous les jeux qui ont été annoncés avec quelques petites infos sur les plateformes, etc. Et quel type de choses ils ont annoncé, si c'est un DLC ou un jeu. Et puis normalement aussi, il y a des liens vers les vidéos YouTube, des présentations ou de l'E3. Donc, vous pourrez aller regarder vous-même les vidéos qui vous intéressent s'il y a besoin. Donc voilà, donc vous avez toutes ces infos-là et nous on va faire un gros résumé rapide le plus possible. Et donc, au programme, nous allons parler de l'IA Play, EA Play, pardon, de Microsoft, de Bethesda, de Devolver, du PC Gaming Show qui a encore eu lieu cette année, d'Ubisoft, de Stadia, de Square Enix et Nintendo pour terminer. Les meilleurs pour la fin, je crois qu'on est d'accord.
Non.
Quoi? C'est pas les meilleurs pour la fin?
Non, le meilleur pour la fin, c'est Square Enix.
Non, j'ai dit les meilleurs pour la fin. Square Enix et Nintendo. On n'est pas d'accord. Lui est plus Square Enix, moi je suis plus Nintendo, voilà.
C'est pour ça qu'ils ont fini les préconventions.
Donc, commençons tout de suite avec l'IA Play. On va pas perdre plus de temps que ça. L'IA Play, ils ont surtout présenté leur jeu Star Wars Jedi Fallen Order, qui va sortir le 15 novembre 2019 sur PC, Xbox One et PS4. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu sur Star Wars, donc vous vous en doutez, ça va être dans l'univers Star Wars, sur les planètes avec les sabres laser. Et en gros, l'histoire me donne vraiment envie. Ça se déroule juste au début de l'Empire, donc juste après la ronde des Sith et juste après qu'on ait exécuté l'Ordre 66. Et on va incarner Cal Kestis, qui au début du jeu se cache sur sa planète Braca. Il travaille discrètement comme un modeste ouvrier. Et un jour, un accident va arriver et ça va le forcer à utiliser un pouvoir, la Force. Ça attire l'attention des autorités, blablabla. Et puis il va finir par utiliser la Force, un sabre laser. Il va avoir un petit droïde avec lui pendant toute l'histoire. Donc voilà, un peu le contexte. Au niveau du gameplay, on nous promet un système de combat technique et pas avoir un gros bourrinage. Alors ça avait l'air, dans ce qu'on a vu un peu quand même, de devoir faire un peu plus de choses que du bourrinage. Il y avait des façons un peu différentes en fait de pouvoir battre ton adversaire en utilisant la force. Mais vu que la force descend aussi, mais elle a l'air de se recharger assez vite. Mais tu peux jouer aussi avec ça, en balançant ton sabre, etc. Donc il y a vraiment un truc qui a l'air un peu plus intéressant qu'un simple boum boum boum, t'es bon, t'es mort. Il ne s'agira pas d'un monde ouvert, plutôt d'une expérience un peu comme un Metroidvania. Vous allez devoir arrêter dans une zone, puis vous pourrez y revenir plus tard, enfin voilà. Et un truc à noter, dans ce que j'ai pu avoir, c'est que la moitié des planètes du jeu sont originales et l'autre moitié sont connues. Donc les grands fans retrouveront des planètes qu'ils connaissent et puis ils verront de nouvelles planètes et ça leur fera plaisir, je pense. Niveau technique, les attaques au sabre laser ne comprendront aucun membre, sauf pour quelques trucs humanoïdes ou des droïdes. Il n'y aura apparemment aucun écran de chargement dans le jeu. Ça, c'est à noter, c'est plutôt pas mal. Il y aura en fait des transitions, comment ça s'appelle, de manière dynamique, de gauche à droite, les transitions volets, qui apparemment étaient hyper dures à faire. Au cinéma, c'est hyper simple. Mais je pense que dans le jeu vidéo, en fait, vu que tu dois avoir tout un moteur graphique qui tourne d'un côté, plus un moteur graphique qui doit tourner de l'autre et une transition, ça doit être hyper compliqué. Et s'il n'y a pas d'écran de chargement, franchement, chapeau. Et si ça lag pas pendant ces transitions, ils auront réussi un beau truc technologique, je pense. Et une grande nouvelle pour un Star Wars. Pas de microtransactions, pas de lootbox. Hein. On parlera pas du dernier Star Wars qui a eu tout ça et qui a été beaucoup critiqué. À l'IA Play, ils ont présenté aussi d'autres choses. Une nouvelle saison pour Apex Legends qui commencera le 2 juillet. Un DLC pour Battlefield 5 qui sortira le 27 juin. Un DLC pour The Sims 4. Ce sera un DLC un peu vacances. Ça tombe bien, c'est l'été.
Ils sont raccord.
Ils sont dans le bon thème. Ils sont d'accord, merci. Et puis des jeux. C'est un peu les saisonniers. Enfin, c'est un peu les jeux qui reviennent tout le temps chaque année au même moment. EA Sport FIFA qui va sortir 20, qui va sortir le 27 septembre sur PC, Xbox One et PS4. Et Madden NFL qui sortira aussi sur ces trois plateformes le 2 août de cette année. Voilà pour la conférence, il y appelait, il n'y avait pas plus de choses. Là, on vous a tout donné. Profitez de ça si vous avez envie de découvrir un de ces jeux, des DLC. Voilà, t'as là, rien à rajouter dessus, je pense.
J'ai principalement suivi mes conférences à moi. Ça fait déjà pas mal de taf.
Ouais, on s'est découpé le travail parce qu'il y avait énormément de travail à faire pour vous résumer ça en peu de temps. Et donc, Stalas va nous parler de la première conférence qu'il a pu suivre, c'est-à-dire celle de Microsoft.
Tout à fait. Donc, c'est déroulé, je crois que c'était la deuxième conférence, je crois qu'on les a mis dans l'ordre. La deuxième conférence qui...
Ouais, ou la première, parce que l'IA était un peu avant, c'était pas une vraie conférence.
Mais ouais, de toute façon, j'ai plus le planning. Donc, c'était une des premières conférences à s'activer. Donc, alors, je vais vous parler un peu de la conférence avant de vous parler des jeux évoqués. Donc moi j'ai trouvé que c'était une conférence plutôt calme, il y avait le public comme les développeurs et les heads, je sais plus comment ça se traduit, Les échecs de Microsoft n'avaient pas l'air d'être si emballés que ça, c'est-à-dire, enfin, j'ai pas son ressenti d'emballement. Sauf sur des jeux phares tels que Cyberpunk 2077, que tout le monde attend et qui a été reporté. The Outer Worlds, voilà, je crois qu'ils avaient reparlé aussi un peu de Star Wars Jedi. C'est sur ces jeux-là qu'il y a le plus de discussions, ainsi que sur la présentation, entre guillemets, rapide du projet Scarlet, qui a duré quand même, enfin, je dis rapide entre guillemets, parce que ils n'étaient pas censés en parler, finalement ils en parlent pendant 10 minutes. Mais donc voilà, voilà. Donc après, en termes de présentation de jeu, on a surtout du trailer. Les gameplay et mécaniques de jeu n'étaient pas présentées, sauf de temps en temps, par les développeurs. Comme Microsoft est une grosse boîte de jeux vidéo, alors quels jeux vidéo ils ont présenté? Alors juste pour vous dire, ils ont présenté 31 jeux, enfin 31 types de jeux. Je vais pas tous les énumérer, vous retrouverez ça sur le lien qu'on vous donnera. Alors, les jeux qu'on attend le plus, enfin je pense que les gens attendront le plus. J'ai noté Halo Infinite qui devrait sortir pour les vacances, alors je présume que les vacances d'été en 2020. Donc c'est le type de jeu, c'est un FPS, c'est le sixième jeu principal de la série. Je crois que c'est le cinquième dans la lignée. Il me semble, j'ai pas trop suivi Halo malheureusement. Donc c'est le retour du Master Chief. On n'a pas encore beaucoup d'informations dessus, sauf que ça devrait sortir un peu après le projet Scarlet. L'un des deuxièmes jeux les plus attendus, je pense que ça sera le Borderlands 3, qui sortira lui bientôt, c'est à savoir le 13 septembre 2019. Donc c'est aussi un FPS, le quatrième principal de la timeline principale. Pareil, Microsoft n'a pas particulièrement plongé dans le terme de, en termes de, d'informations pour ce jeu. Donc mis à part que j'ai appris qu'il y aurait une nouvelle classe jouable, en plus de pouvoir visiter le monde en open world, qui n'était pas le cas dans les précédents, j'ai pas plus d'informations. Après, je suis pas trop FPS. Allez-y, huez-moi. Du coup, c'est vrai que j'ai pas trop suivi Halo et Borderlands. Donc ça, c'est les jeux, c'est deux jeux, je pense, que tout le monde attendra de façon les plus impatientes. Et ensuite, j'ai noté quand même quelques jeux notables. Je reviens moins dedans, je vous laisse. À savoir, Age of Empires 2 Remastered. Donc, on reste dans cette quand même lignée de qu'ont les éditeurs de jeux vidéo de remasteriser quelques jeux qui du passé qui étaient quand même bien appréciés. Way to the Wood, qui me paraît bien sympa, où en fait vous allez incarner un cerf qui avec son faon qui essaie de rentrer chez eux. Et un nouveau JRPG de la série des Tales of, qui va s'appeler Tales of Arise. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur Microsoft. Des choses à rajouter peut-être?
Ouais, moi il y a les petits. Enfin, ils ont comme il y a eu le Minecraft Dungeon, je sais pas s'il a été annoncé avant, mais moi j'en avais pas entendu parler avant. Donc ça a noté. Enfin, vous regarderez, c'est un MMORPG en vue trois quarts au-dessus. Bon, vous regarderez, vous verrez si ça vous plaira ou pas. Moi, il y a toujours les jeux Lego, je les adore parce que c'est les seuls jeux, je trouve, qui arrivent à bien adapter les films. J'en ai pas vu beaucoup des jeux qui arrivent à bien adapter les films, et il y a que les Lego pour moi, je trouve, qui arrivent à le faire. Après, Star Wars, c'est des très bons trucs à côté. Mais en adaptation de film, je suis pas sûr que ce soit ouf. Donc voilà, ils font un Lego Star Wars, pardon, The Skywalker Saga. Donc on aura, je pense, les 9 épisodes. Dragon Ball Z Kakarot. J'en ai marre de voir tout le temps les Dragon Ball Z, mais là, il a l'air d'être en monde ouvert, donc ça a l'air sympa. Donc pourquoi pas. Et tout ça, c'est le dernier, c'est en 2020. Et le petit truc qui m'a fait marrer pendant la conférence Microsoft, le DLC Forza avec des Lego. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. À quel moment ils se sont dit que ça pourrait être marrant. Mais c'est marrant en fait. J'espère que c'est pas trop cher parce que c'est marrant, mais je mettrais pas, si j'avais une Xbox, je mettrais pas 10 € dedans, quoi. Je mettrais 2 € quoi, pas plus. Et même si c'était gratuit, ce serait encore. Ouais, moi c'est tout. Et le reste, tu l'as déjà dit.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, après, dans les jeux que j'attends le plus, ça serait plutôt Gear 5 Escape. Le Dragon Ball, c'est pareil, je suis comme toi, j'en ai marre de les voir toujours tourner autour de Dragon Ball parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et que les derniers jeux n'étaient pas d'enfer, mais je veux quand même voir ce qu'il offre. Alors, pour ceux qui sont intéressés, Dragon Ball Z Kakarot, il y a eu des...
Gameplay.
Je sais plus quelle chaîne qui a réussi à avoir
Ah,
accès au jeu.
tu trouves des
Pas
gameplays
grand-chose, mais...
sur YouTube, j'ai vu un gameplay, bon, donc ouais.
Ouais, donc vous allez pouvoir trouver un peu de gameplay avant. Et puis moi, c'est surtout Tales of Arise qui me hype le plus.
Bah voilà. Ok, bah voilà pour la conférence Microsoft. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous hype, ce qu'on en ait parlé ou qui soit dans la liste qu'on vous donne. Et donc, on va passer avec une conférence un peu plus courte, celle de Bethesda. Alors, Bethesda, un DLC pour The Elder Scrolls Blades, une sortie sur Switch annoncée pour l'automne de cette année. Un DLC pour The Elder Scrolls Online, qui s'appelle Elsweyr, je crois qu'il y a avec un dragon. Donc, ils ont annoncé pas mal de trucs sur The Elder Scrolls. Ils ont annoncé The Elder Scrolls Legend, les lunes d'Elsweyr aussi. qui sortira le 27 juin sur PC, iOS, Android et Mac. Donc ça, ça va être un jeu un peu plus mobile qui est aussi un peu sur PC. Encore un DLC pour Rage 2, mais le trailer est très drôle. Je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Enfin voilà, généralement ça change avec eux, mais le trailer est très drôle. Enfin regardez. Et un DLC pour Fallout 76 après s'être excusé pleinement du jeu. Hein. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais ils se sont bien excusés. Et ils ont présenté un nouveau trailer d'un jeu qu'on savait déjà qui allait sortir le 26 juillet sur PC, Xbox One, PS4 et Switch, de Wolfenstein Youngblood. Hop, désolé, c'est mon téléphone qui a des messages. Par contre, on a eu un très très bien, avant que je parle des petites originalités qui m'ont fait de l'œil, je vais vous parler quand même du gameplay qu'il y a eu sur Doom Eternal. Enfin, je ne vais pas vous en parler, je vais juste vous dire qu'il y a un gros gameplay qui a été présenté à la fin de leur conférence sur Doom Eternal avec du gameplay, et ça envoie du pâté. C'est prévu pour le 22 novembre sur PC, One, PS4 et Switch. Donc si vous êtes intéressé pour voir le gameplay, allez le voir, ça envoie du pâté. Après c'est du Doom, donc voilà, des gros jeux, mais pas trop d'originalité dans tout ça, hein. On les connaît tous, ces licences. Par contre, ils ont annoncé un petit jeu mobile qui fait très dessin animé, très cartoon, très débile, très Oogie et Cafard, un truc comme ça, je sais pas trop. Mais le trailer m'a vachement donné envie. Bon, le jeu m'a un peu moins donné envie, c'est un vieux truc, ça s'appelle Commander Keen, c'est un vieux jeu de stratégie. Qui n'a pas l'air d'avoir un gameplay ouf, mais à l'époque, quand c'est sorti, c'était vraiment un gameplay très fort. Ils avaient dû faire des prouesses techniques parce qu'ils ne pouvaient pas changer les personnages aussi rapidement qu'ils le voulaient. Et du coup, ils redessinaient que certaines parties de l'écran pour faire bouger les personnages. Enfin bref, un jeu qui a marqué pour son innovation dans la technologie et qui sera disponible gratuitement sur téléphone. Non, il ne sera pas disponible. Je testerai s'il est disponible gratuitement, pardon. Je me perds dans mes notes. Ils nous ont parlé de Deathloop aussi. Alors, on a eu un trailer époustouflant, très joli en termes de graphisme. On a l'air de pouvoir incarner un héros assassin qui ne peut pas mourir et qui va revenir. S'il meurt, il revient en arrière et il recommence son avancement de sa vie. Un peu comme le film Edge of Tomorrow, je pense. Donc, ça a l'air assez intéressant. Ça permet aussi de dire, ce n'est pas une vie que tu perds, c'est prévu dans le jeu. C'est aussi une façon logique de le faire. Et c'est à suivre parce que c'est fait par un studio lyonnais. Donc, un truc aussi beau et qui a l'air aussi bien, et français, pas de raison de pas le suivre. Moi, je suis un peu chauvin sur les bords, mais seulement quand c'est bien. Le jeu qui a le plus surpris de monde, qui a l'air de faire vachement parler, je suis pas sûr que j'y jouerai, parce que ça a l'air un peu horreur sur les bords, mais ça a l'air un peu thriller aussi, donc peut-être pas trop horreur. C'est Ghostwire Tokyo. Alors, on a eu un trailer très très intriguant. En gros, on était dans un Tokyo, et les gens disparaissaient comme ça. Alors, il y a eu des petites transitions pour se passer derrière un poteau, puis là, il n'y avait plus personne, il restait juste une chaussure. Les animaux avaient l'air de rester. Donc, il y aurait des pouvoirs spéciaux, particuliers, qui règnent dans la ville et qui font que les gens disparaissent. Et donc, je pense qu'on va devoir enquêter là-dessus et savoir pourquoi. Donc, ça, c'est pour les jeux qu'a présenté Bethesda. Et la grosse surprise de Bethesda. Parce qu'on attendait tous du xCloud, de Microsoft, du Google Stadia. Bethesda est arrivé, il fait « Eh, regardez !» On vous présente Orion. C'est une superbe technologie pour accélérer le streaming du jeu vidéo. Et là où c'est très fort en plus, c'est que c'est pas un concurrent à xCloud et Stadia. C'est un complément. Ce sera un moteur, en fait, c'est plus dans la façon de développer ton jeu, le moteur pour développer le jeu, qui permettrait en fait d'accélérer beaucoup la réactivité, l'affichage et l'appui sur les touches, etc. Donc je sais pas trop comment ça marche technologiquement, je serais assez curieux de savoir comment ils ont pu faire. Mais, de façon très précise. Mais en tout cas, la très grosse surprise au niveau du cloud venait pas de Microsoft et Stadia, mais de Orion et de Bethesda du coup. Donc, franchement, bravo à eux d'aller dans ce sens-là. Et en plus, c'est dans leur intérêt en plus de pas aller contre Microsoft et Google. Donc bien joué à eux. Et j'espère que ça sera très, très utile dans l'avenir. Quelque chose à rajouter sur Bethesda, de toute façon il n'y avait pas beaucoup de jeux, donc je crois qu'il y avait tous les jeux. Donc...
Non, c'est sympa cette petite nouvelle technologie, et puis moi, je pense que dans les jeux attendus pour Bethesda, déjà il y a Doom. J'adore Doom, je suis pas très FPS mais j'adore les Doom. Et puis Command & Keen, si jamais c'est un jeu de gestion, ouais j'essaierai, tiens, j'aime beaucoup les jeux de gestion.
C'est à voir, je suis curieux. Mais le trailer donnait envie. Et dans ce cas-là, encore une toute petite conférence, une toute petite. C'est Stalas qui va nous en parler et c'est Devolver. Je pense, tu me coupes si j'y faut, mais la conférence la plus originale du plateau.
Ouais, tout à fait. Alors c'est pareil, c'était comme Bethesda et je pense, je sais plus quelle autre conférence qui était assez courte aussi. Alors qu'habituellement les conférences duraient 1 heure et demie, 1 heure 50, allez 2 heures, maximum 2 heures pour les plus longues. La Devolver, ça a été sur 30 minutes, mais ça a été 30 minutes avec les 5 premières minutes du show où ça a été n'importe quoi. Pour moi, ce que j'ai noté, c'est que clairement parmi la dizaine de conférences faites avant l'ouverture officielle de l'E3, Devolver mérite la palme de la plus originale et de la plus fun. Juste pour vous donner un petit peu envie de la regarder. Au début de la conférence, en fait, vous avez l'animatrice qui se fait tirer dessus. Après, elle se fait soigner en mode un peu robotique par son équipe et par un hôpital. Ils n'arrivent pas à la rallumer. Et puis, il y a son équipe qui dit, tiens, mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas s'en servir pour faire une présentation numérique? Et du coup, c'est ce qu'ils font.
Voilà. Je croyais pas, c'était là, je me disais, t'es en train de fumer des gens, t'es en train de me raconter n'importe quoi, puis j'étais voir, et effectivement, ça vaut le coup d'aller regarder.
Donc du coup c'est bien, du coup ça permet d'avoir des annonces un peu plus sympas. Surtout que la présentatrice fait très bien son job. Alors, qu'est-ce qu'on avait à faire? Donc eux en termes de jeux, ils n'ont pas présenté beaucoup de jeux, ils en ont présenté 5, tous des jeux indépendants. Donc à savoir que les jeux indépendants sont des jeux qui ne sortent pas de grosses boîtes d'éditeurs et sont en général faits par allez, maximum 2 boîtes qui collaborent ensemble. Maximum. Voilà, c'est vraiment des petits jeux. Ah, vous attendez pas à des graphismes de ouf ou des histoires super sympas. Ça va pas être. Enfin, les histoires peuvent être sympas, mais les styles graphiques ou le gameplay seront pas ultra élaborés. En général, c'est plutôt des trucs de
Ouais,
plateforme.
mais enfin, t'as pas les graphismes de ouf en 3D, mais généralement, t'as des petits trucs du genre dessin animé ou des trucs comme ça qui sont très jolis en fait. C'est plutôt artistique
Ouais, voilà.
que pointu.
C'est ça, tout à fait. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Ce que j'ai le plus eu envie de voir. C'était, alors le premier jeu s'appelle Fall Guys Ultimate Knockout, donc il sortira en 2020 sur PC et PS4. Le but du jeu, en fait, ça va être 100 joueurs qui vont jouer ensemble. Alors si j'ai bien compris, normalement ça devrait être en ligne, hein. Attends.
Parce qu'on va trouver 100 amis en même temps.
Ouais, ça fait beaucoup. Mais donc du coup, 100 personnes, ou alors peut-être avec des IA pour compléter, mais voilà, donc en tout cas, 100 personnages qui seront dans la course. Et le but sera en fait de terminer premier. Et vous avez des espèces de mini-jeux du genre, des espèces de mini-jeux qui vont vous demander des réflexes et de la rapidité neuronale pour esquiver. Genre, par exemple, des plateformes qui se dérobent sous vos pieds, vous tombez, et du coup, vous mourrez, et du coup, vous finissez la course. Des rochers qui vous courent après, des gigantesques portes qui vous tombent dessus, etc., etc. Le trailer, moi, m'a beaucoup fait marrer. Pour le moment, on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais il devrait sortir en 2020. Voilà, moi, c'est un jeu, par exemple, je pense que j'en reparlerai dans Burger Game si jamais j'arrive à trouver la date précise de quand il sortira. Après, je vous parle d'un jeu qui m'a bien plu parce que la présentation juste avant était très sympa, qui s'appelle Carrion. Donc c'est pareil, c'est un jeu indépendant de plateforme où en fait vous allez incarner un monstre qui s'échappe d'un complexe scientifique. Donc votre but pour vous, enfin vous échapper de votre comment j'appellerais ça, de votre stase. Et puis après, maintenant, votre but, c'est de vous enfuir du complexe scientifique en butant scientifiques et les militaires qui les accompagnent.
Sans se faire buter.
Sans se faire... Non, plutôt capturer. Je sais pas s'ils veulent nous buter, mais en tout cas, ils cherchent à nous capturer.
Ouais, ok.
Et alors, un petit truc sympa que j'ai trouvé, c'est que vous pouvez les tuer de différentes manières. Et une de ces manières, en fait, c'est de pénétrer dans le corps d'un ennemi pour le faire exploser de l'intérieur.
Alors, pénétrer comment? Physiquement ou
Non,
mentalement?
physiquement.
Ah, purée. Ah.
Après, c'est d'un point de vue graphisme, c'est à peu près de la même manière que les jeux qu'on pouvait trouver, les jeux de plateforme qu'on pouvait trouver dans les années 90, hein. Donc vous n'allez pas voir grand-chose, mais ça donne comme une image. Alors, c'est encore un jeu qui est prévu pour 2020, et celui-là, il sortira sur PC, sur Xbox One, sur PS4. Et après un tout petit jeu notable qui moi m'a fait m'a bien hypé, m'a bien plu, m'a l'air de pourrait me plaire si je m'y mettais, qui s'appelle My Friend Pedro, donc qui est présenté, donc déjà qui est présenté par une banane, pour de vrai, hein. Donc c'est un run and gun. Donc pour ceux qui savent pas, un run and gun, en fait vous êtes sur un c'est un jeu de plateforme. Vous courez sur une plateforme en ligne droite et votre but c'est de tuer des gens avec tout ce que vous pouvez trouver sur le chemin. Donc en général, vous avez surtout des arbres, vous les tuez avec vos arbres, et vous avancez jusqu'à la fin du niveau. Et le but, en fait, c'est d'avoir un maximum de points à la fin du... À la fin du stage, en tuant des ennemis avec des figures du genre, par exemple, vous pouvez tirer avec votre pistolet, vous touchez une plaque de métal, ça tue l'adversaire par l'arrière en par ricochet. Si jamais vous êtes assez doué, vous pouvez décapiter vos ennemis et balancer les têtes sur les autres ennemis, voilà. Tout ça va vous rapporter un peu plus de points, et donc le but du jeu, c'est de finir avec un maximum de. Voilà. Donc pour Devolver, voilà, c'était une petite conférence, ça dure à peu près 30 minutes, je vous conseille d'aller la regarder, elle est assez divertissante. Puis après, d'un point de vue jeu, ça n'a pas été non plus des jeux grandioses, mais ça peut être des petits jeux indés quand même assez sympas, sûr.
Ok. Donc les autres jeux, c'est The Messenger Picking Panic et Devolver Bootleg. Voilà.
C'est ça.
Vu qu'il y en a deux. Ok, moi j'ai rien à rajouter sur 5 jeux. Hein. Voilà. Alors, je vais passer du coup au PC Gaming Show. On avance, hein, c'est pas mal. Je crois qu'on en est à peu près à la moitié là. Enfin, une fois que j'aurai terminé le PC Gaming Show. Ok, alors, PC Gaming Show. Alors, c'était vachement long, je trouve. Je crois qu'il y avait 1h45 de présentation pour 24 jeux. Alors, je comprends que vu que c'est généralement des indépendants, ils viennent présenter, expliquer un peu leur jeu, etc. Mais moi, franchement, ça me saoule, c'est vachement long. Alors, il y a peut-être qui aiment bien ça, mais je me demande s'ils ne devraient pas repenser un peu le format. Un peu comme Nintendo, j'en parlerai après, mais. Ou au moins mettre une partie trailer plus concise, et après, peut-être plus. Voici du gameplay de chaque jeu, ou. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très très long. Il y a beaucoup de jeux, donc je ne vais pas vous parler de beaucoup de jeux. Je vais vous en parler de trois qui m'ont... Parce qu'il n'y en a pas non plus qui sont sortis du lot. Donc il y en a trois qui je trouve sympas, mais c'est pas... Oh, il y a ce jeu-là qui va sortir, il a l'air trop bien. En premier, il y a eu une Maniteur. C'est très original. En fait, on va contrôler un requin qui va grandir et manger des humains. Ouais, voilà. Le gameplay a l'air sympa sur le fait de... Et original, en fait. Franchement, sur le coup... Ça, je pense que ça ferait marrer tout le monde de contrôler un requin et d'aller bouffer des gens comme ça. Le seul problème, c'est que j'ai pas trop vu d'histoire. Il y a l'air d'avoir des achievements un peu dans le jeu, mais sans plus. Donc j'ai peur que ce soit vite chiant, en fait, malheureusement. J'espère pas, mais j'ai peur que ce soit vite chiant et qu'on soit vite saoulé, en fait. Enfin, tu vas y jouer pour t'amuser deux fois, puis après, il va rester dans ta bibliothèque Steam et voilà. Ce serait dommage. Enfin, ça sortira cette année, on ne sait pas trop quand. Un autre jeu, Per Aspera. C'est un jeu de gestion où l'être humain a réussi à transférer son esprit dans les robots qu'il envoie sur Mars. Et donc, en gros, on va être sur Mars et ça va être un jeu de gestion sur Mars pour coloniser Mars et préparer Mars à l'arrivée d'humains. J'aime bien les jeux de gestion, je trouve que c'est un peu calme des fois, etc. Donc, peut-être, pourquoi pas, il a pas l'air... Enfin, il y a déjà un Survival Mars, je crois. Je suis pas sûr du nom, mais etc. Mais je crois qu'il y a déjà un truc comme ça. Donc, je sais pas s'il est mieux ou pas non plus. Il m'a pas trop épais. Donc, peut-être je regarderai un peu plus de gameplay. Le gameplay m'a pas trop donné envie. Mais à voir. Enfin, le dernier jeu qui a été. Enfin, le dernier jeu dans lequel j'avais envie de parler, c'est L.A. Show. C'est un jeu d'infiltration très inspiré des genres western, celui du cinéma. Et en fait, vous allez guider un enfant de 6 ans. Dans sa quête pour retrouver sa mère. Tout au long du jeu, on va gagner de l'expérience en fait on va trouver de nouvelles façons de se cacher du danger, et plus en fait il y aura encore de nouveaux moyens d'éviter tout ça. Les graphismes sont jolis. Je n'avais pas vu beaucoup des jeux avec des graphismes jolis et artistiques comme on disait, mais il n'y a pas de date annoncée. Je sais pas trop non plus. Les graphismes sont jolis, donc peut-être que je me laisserai tenter juste par le côté graphisme. Parce que pour le coup, les jeux indépendants, je me laisse souvent tenter. Soit parce que le truc a l'air marrant, soit pour les graphismes qui ont l'air assez jolis. Je vous aurais bien donné un exemple, mais j'en ai pas qui me revient en tête. Donc tant pis, on va passer à la suite. C'est toi, Stalas, qui va nous parler de la conférence Ubisoft.
Ubisoft, ouais! Pardon. Tout à fait, la conférence Ubisoft. Alors, ça a été la conférence de milieu de parcours en termes de conférence. C'est à peu près normal, Ubisoft est quand même une grosse boîte et quand même pas encore au niveau de ce qui va suivre. Alors, donc, comment est-ce débuté cette petite séance? Bah, écoutez, cette petite conférence, elle s'est débutée assez tranquillement, déjà, par un petit concert d'une dizaine de minutes sur la musique, sur les musiques d'Assassin's Creed. Ça fait toujours plaisir, elles sont sympas après tout.
C'était très bien pour pouvoir s'endormir parce que je crois que c'était à 19h ou 21h, un truc comme ça. Donc c'était très bien.
C'était une conférence, enfin une des conférences que je regardais. Oui, j'avais déjà regardé un petit peu les autres conférences quand même. J'ai dit que je ne m'étais pas concentré dessus, mais j'ai quand même regardé un peu. C'est la première conférence que j'ai vue qui montrait enfin un peu de gameplay. Malheureusement, ils en montrent. Et je comprends après que les gens ont beaucoup râlé sur l'E3 en disant putain, mais ils font chier, mais trop de gameplay. Ouais, Ubisoft a mis trop de gameplay sur son jeu principal, à savoir Watch Dogs Legion. Alors, c'est simple, j'ai à peu près chronométré, j'ai essayé de chronométrer à peu près. Ils en parlent pendant 17 minutes. 17. Sur une conférence qui fait 1h30, 1h, elle fait combien de temps déjà? Elle fait 1h30, 1h30, ils présentent 11 jeux et une série TV. Et pendant 17 minutes, ils parlent de Legion. Et alors, ça commence par un trailer, du gameplay, on repasse sur un trailer, on discute un peu avec les devs, on repasse sur un trailer. J'ai trouvé ça hyper long.
C'est long.
Ah bref, du coup, bah, dans les jeux attendus, c'est le seul défaut que je peux leur donner. Après, ça, la conférence roulait plutôt bien, même si moi, pour moi, il manquait un peu de jeu, de nouveauté. Alors, les jeux attendus. Attention, tenez-vous bien, sur le premier, je crois que vous vous y attendez pas. On va parler de Watch Dogs Legion. Donc, alors, moi je savais pas, moi je pensais que c'était le deuxième. J'ai pas suivi la série. Donc, mais en fait, c'est le troisième volet de Watch Dogs. Donc cette fois-ci, il se déroulera. Alors, on sait qu'il se déroulera à Londres. Vous serez du côté du révolutionnaire qui veut l'empêcher, je sais plus quelle est la société maléfique de contrôler le monde en hackant toutes les personnes un peu. Enfin, tout ce qui est connecté, TV, tablette, personne, puisque dans cet univers-là, les gens sont connectés pour de vrai. Alors après, il y a eu juste qu'à ramener moi une petite anecdote. Ubisoft s'est justifié en disant que ça se passe dans un Londres, donc un Angleterre un peu post-apocalyptique. Et vous êtes pas sans, je pense que vous êtes au courant quand même qu'il y a le Brexit. Du coup, Ubisoft s'est dit, non, mais on a choisi l'Angleterre avant même que l'Angleterre choisisse de faire le Brexit. Moi, ça c'est une info qui m'a fait un peu rire. Je vais pas trop essayer de rentrer dans le gameplay parce que j'ai pas trop suivi, parce que 17 minutes, honnêtement, j'ai fait des coupes. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il sort le 6 mars 2020 sur PC, Xbox One, PS4 et qui devrait ravir les fans de la série.
Est-ce que tu peux dire dans ce qu'on avait vu, c'est que tu pourras passer d'un personnage à un autre assez rapidement et du coup tu auras plein de personnages jouables.
Ah ouais, si, je vais juste dire ça. Il y a plein de personnages jouables, mais tout simplement parce que si jamais vous vous faites tuer sur un personnage, il meurt pour de vrai. Vous pouvez pas le reprendre. C'est pour ça que vous avez plein de personnages.
Voilà. C'est, pour le coup, ça mérite d'être original, je trouve.
De ce point de vue-là, ouais. Alors, un deuxième jeu, je vous en présente trois. Le deuxième jeu qui devrait arriver sera Tom Clancy Division 2. Alors, attendez avant de huer. Oui, il est déjà sorti. Mais en fait, là, il compte sortir le troisième épisode de Tom Clancy Division 2 en début 2020. Et c'est pour ça que je dis que c'est une nouveauté. En fait, c'est plus un DLC qui sort, mais du coup, ça va être une nouvelle histoire aussi. Donc, ça se déroulera un peu dans le scénario d'une chasse à l'homme. En fait, d'après ce que j'ai compris, il y a un humain qui serait capable de ressusciter l'humanité qui a été tuée lors d'une précédente guerre. Et du coup, en fait, vous, en tant que gentil, vous allez devoir le traquer pour le pousser à ressusciter l'humanité. Si j'ai bien compris. J'en profite aussi pour dire qu'ils ont annoncé pour ceux qui aiment bien la série des Tom Clancy et surtout Division 2, qu'ils ont annoncé qu'ils commençaient à réfléchir à faire un film Netflix dessus. On n'a pas encore d'informations dessus, mais je voulais donner l'info, enfin de faire tourner l'info. Et après le troisième jeu dont je voulais parler qui me hype le plus. Alors ça devrait être un des successeurs des
Just Dance 2020.
Non, ça j'en parle après. Ça devrait être un des successeurs d'Assassin's Creed qu'on espère est bientôt fini, qui va s'appeler Gods and Champions, donc qui est prévu pour sortir le 3 mars 2020. Donc c'est un nouveau action RPG, ça va être le nouvel action RPG d'Ubisoft. Donc action, je pense que tout le monde comprend, c'est un jeu d'action, et RPG c'est pour roleplay gamer ou en français jeu de rôle. Il se déroulera dans la Grèce antique. Et votre but, ça sera plus ou moins de tuer les, de prouver votre héroïsme en tuant les créatures maléfiques. Et le but un peu plus poussé de l'histoire sera de sauver les dieux mythologiques qui sont enfermés par des forces démoniaques. Je sais, on n'a pas spécialement d'infos dessus. Surtout le trailer avec quelques petites images du jeu, mais à part ça, ils ont pas trop annoncé. C'est ce qui a clôturé la conférence Ubisoft. Après, juste rapidement, je vais vous parler quelques petits jeux notables. Alors, je connais pas ce jeu de combat, mais il m'a l'air d'être bien sympa. Qui s'appelle Brawlhalla. Alors, Brawlhalla, en fait, ils vont un DLC avec les deux compères d'Adventure Time. Donc, on va pouvoir retrouver le petit chien et le gamin qui courent partout. Et du coup, ils les ajoutent en DLC dans le jeu. Après, une petite notion honorable à Just Dance, qui va sortir sa version 2020, comme chaque année. Et on peut les applaudir parce qu'ils fêtent leurs 10 ans. Donc vous pouvez le dire, on prend un sacré coup de vieux là.
Petite question, tu sais, parce que j'ai vu qu'il sortait sur One, PS4, Switch et sur Wii. La surprise générale. Tu sais pourquoi ou pas?
Ils ressortent bah, parce que c'est un jeu qui a commencé sur Wii. Je pense qu'il
Ok, d'accord,
continue
c'est pour
à.
l'anniversaire. Parce que les autres, je suis pas sûr qu'ils soient sortis sur Wii encore. Parce qu'il y a plus de jeux qui sont développés.
Je pense qu'ils veulent toucher un maximum de plateformes et que la Switch n'est pas forcément la plus adaptée. Enfin, si, ça va, elle reste
Non,
adaptée.
la Wii U. Parce qu'ils sortent pas sur la Wii U par contre.
Ah bah non, bah c'est peut-être pour faire ressortir les Wii des placards.
Ouais, puis parce que les gens qui ont dû commencer avaient sur Wii aussi, je pense. C'est peut-être ça
Je
en fait
pense.
finalement. Ok, vas-y.
Et enfin, le dernier petit jeu notable que j'aurais bien placé dans les jeux attendus, mais je savais pas quel effet il va avoir. Donc, il s'appelle Roller Champion et ça devrait être, selon certains commentaires et certaines personnes, le digne successeur de Rocket League. Pour ceux qui connaissent pas Rocket League, c'est le jeu où vous amusez à marquer des buts avec des voitures. Alors, moi, j'attends de voir, bah pareil, j'attends de voir pour savoir si ça sera vraiment un successeur. Le but, ça sera de marquer des points, comme dans Rocket League. Sauf que cette fois-ci, vous allez être en équipe. Et en fait, vous allez être sur des rollers. Donc, j'ai essayé de retrouver le nom de la discipline, mais je l'ai pas retrouvé. En fait, vous êtes en intérieur, vous faites des tours de stade, et au bout d'un certain nombre de tours, vous avez le droit de lancer le ballon autour dans un arceau. Si vous marquez, vous gagnez un certain nombre de points. Si vous échouez, bah, tant pis, c'est recommencé. Donc, ça se fait avec deux équipes. Une équipe qui a le ballon et qui essaie de faire le nombre de tours et de marquer, et l'équipe adverse qui va du coup essayer d'empêcher tout ça. Donc tout ça se passe sur des rollers. Ça m'avait l'air d'être bien sympa. Et malheureusement, on n'a pas encore de. Je pense que ce jeu est encore un peu en développement. On a juste eu le droit à un trailer et de l'image de jeu, mais j'ai pas trouvé de date de sortie.
Il y a une pré-alpha.
Ah bah c'est pour ça qu'il n'y a pas de. S'ils sont en pré-alpha, c'est pour ça. Alors pour ceux qui savent pas, en fait dans un développement d'un dans la.
Ah vas-y. Monsieur Wikipédia,
Non,
vous avez dit.
faut l'expliquer parce que du coup tout le monde va dire c'est quoi une pré-alpha? En fait voilà, dans le développement d'un jeu vidéo, en fait si vous voulez vous commencez par l'idée, voilà, donc vous avez l'idée du jeu, du nom, enfin pas forcément encore du nom, mais l'idée globale du jeu. Après vous devez le passer sur des réalisateurs et des chefs d'équipe qui vont accepter ou pas. S'ils acceptent, vous en parlez à l'équipe et tout. Donc l'équipe commence le développement avec tout ce qui est character design, les designs comment ça s'appelle? Des décors, enfin tout ce qui est décor, personnage, un peu le gameplay et tout. Et quand ça s'est commencé à bien être développé, il y a certains jeux qui passent en phase alpha, c'est-à-dire que le jeu est toujours encore en train de développer, mais il y a ce qu'on appelle des bêta-testeurs, des gens qui sont payés pour tester les jeux. Ils vont y jouer pour déjà donner un petit peu les défauts aux développeurs pour qu'ils puissent les modifier. Donc ça, c'est une phase qui est plus ou moins longue. Après cette alpha, on passe à la bêta. Donc la bêta qui est normalement, on va dire, la 0.9. À savoir que le jeu est quasiment fini, mais il reste encore des petits bugs. Donc encore une fois, on va demander à des bêta-testeurs de tester. Et on peut, en fonction de la licence et des joueurs, on peut même demander à des joueurs. Donc dans ce cas-ci, après l'éditeur reprend les informations et essaie de corriger les bugs et d'améliorer le jeu. Et après, le jeu sort. Donc pour vous dire à quel point c'est rare, normalement il n'y a pas de pré-alpha. Parce que la pré-alpha, normalement, ça peut pas exister, puisque la pré-alpha, c'est le cours de développement du jeu.
Enfin, le pré-alpha, ça existe chez eux, quoi, mais généralement, c'est pas disponible, quoi.
Voilà, c'était l'instant Wikipédia sur la sortie d'un jeu.
Et donc, quand on parle d'un grand géant du web, Wikipédia, on va parler du grand géant Google. Et on va parler de Google Stadia. Quelle transition de malade! Alors, Google Stadia, je vais pas en parler beaucoup. Juste, j'en parlais à travers une petite anecdote. C'est que quand ils ont annoncé Google Stadia, moi-même, hein, je l'ai dit. Ah non, c'était pas une vraie émission. C'était une de nos émissions qu'on a fait test avant qu'on fasse celle-là. Mais je disais que j'étais pas trop hypé par Stadia parce que, enfin, avec la connexion, le temps de réaction avec les touches, etc. ça risquait d'être compliqué. Et il y a des gens sur Internet qui disaient « Allez, Gualsalia, faites tourner Doom Eternal, et puis on en reparlera. » Ils sont arrivés à l'I3, un PC branché avec un câble, mais avec un câble et avec un réseau, un ordinateur qui tournait à 400 bornes, et Doom Eternal a tourné comme si c'était sur ta console. Et là, je fais « Ah ouais, ils sont vraiment à un haut niveau. » Je ne sais pas comment c'est possible technologiquement, j'arrive pas à comprendre comment ça peut marcher aussi bien. Parce que, enfin, l'information, faut bien qu'un. Ou alors l'information est prédite, je sais pas, mais je comprends pas. Mais c'est hyper bien fait. C'est censé dans le futur fonctionner en Wi-Fi. Avec le Wi-Fi des gens, c'est pas forcément. Enfin, pas sûr que ça fonctionne bien. Mais en tout cas, ils ont réussi à le faire fonctionner à l'I3 avec un. Je ne sais pas quelle est la bande passante par contre à l'I3, mais ils ont réussi à le faire fonctionner. Il y avait quand même, je pense.
Alors, à l'I3, c'est comme pour les grosses conférences genre Japan ou je sais plus quelle est la deuxième plus grosse conférence de jeux vidéo, mais la connexion, elle tape haut.
Oui, elle tape haut, voilà. Mais frère.
Parce que faut en général, comme j'ai dit dans l'introduction, t'as à peu près 40 000 visiteurs, faut que ça tourne à 40 000 personnes en même temps. En plus d'avoir des championnats de pro.
Enfin, voilà. Donc, franchement, chapeau à Google Stadia. Je suis toujours sceptique parce que ça marche, leur truc avec leur réseau hyper bien, etc. Chez les particuliers, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais je suis sceptique, mais je reconnais leur travail, qui est vraiment un truc magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Stadia. Allez voir plus la conférence si vous voulez, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Et donc, on va arriver. On a fait je pense qu'on a fait une bonne quarantaine de minutes sur cette émission déjà. On voulait en faire 30, c'est de la mort, hein. Mais on va essayer de terminer en un quart d'heure sur les deux plus grosses conférences, à savoir Square Enix et Nintendo. Donc, je laisse Stas parler de Square Enix, qui est la meilleure conférence qu'il ait vue pour lui. Donc, vas-y, fais-toi plaisir, mais pas trop longtemps.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a des mecs derrière moi qui veulent m'emmener. Vous êtes qui, messieurs? Non, mais si je veux parler de FF7, je parle de FF7. Non, alors... oui, effectivement, comme a dit Tipo, c'est la conférence qui, moi, la plus hypée, que j'ai trouvé la plus sympa. Tout simplement parce qu'en fait, dès le début de la conférence, vous avez le droit à la petite musique de... Enfin, la conférence est ouverte sur Final Fantasy VII Remake, déjà. Donc rien que ça, ça fait hurler le public. Et ça a commencé avec... Alors, pour ceux qui connaissent pas, ça va être difficile à décrire. Mais ça a commencé par le New Game Continue... qu'on avait dans le dans les FF, tout simplement, dans les Final Fantasy. Et petit à petit, il y avait New Game, Continue, et puis il y a une troisième ligne qui est apparue avec Final Fantasy VII Remake, et puis là, il y a eu un tonnerre d'applaudissements et de hurlements. Rien que ça, ça met dans l'ambiance. Voilà, donc ça a commencé comme ça, et... Moi, je me disais, bon, c'est juste un des jeux les plus attendus du moment. Ça va se calmer après. Et non, ça s'est pas calmé de toute la conférence. Ça a toujours été hurlement sur des trucs plus ou moins attendus ou nouveaux. Un gros applaudissement. Franchement, Square Enix, ils ont vraiment, comment on pourrait dire, ils ont vraiment bien géré leur conférence. En plus de ça, ce qui était sympa, c'est pour suivre la conférence, on avait, il y avait des cadres, en fait. Enfin, sur l'écran géant, on avait des cadres. Chaque cadre correspondait à un jeu. Vous aviez... alors, est-ce que j'ai la liste? Vous aviez un cadre qui était pour Final Fantasy VII Remake, un cadre pour Life is Strange 2, un cadre pour Dragon Quest Builder 2, etc., etc. Donc, vous aviez ça sur... En gros, vous deviez avoir une vingtaine de cadres. Le dernier cadre étant réservé à au résumé de la conférence. Et donc, alors... Avant de parler des jeux attendus, je pense que je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait jusque-là. J'ai d'abord parlé des jeux notables, enfin des jeux que moi j'attends avec plus ou moins d'impatience. À savoir, on reste dans la lignée des anciens jeux qui sont remasterisés. On va parler de FF8.
J'étais sûr que t'allais se dire FF8, j'en étais sûr.
Bah, commençons par FF8, c'est mon deuxième FF préféré. Donc lui, pour le moment, les gens râlaient un petit peu parce que c'était le seul FF qui a pas encore eu le droit à un remaster. Et bah maintenant c'est chose faite, cette remastered va sortir en 2019 sur PC, Xbox One, PS4, Switch, donc à peu près toutes les consoles. Ça va faire plaisir aux fans de FF. Ensuite, pour rester un petit peu dans les actions, dans les JRPG comme FF, pareil, encore comment j'appellerais ça, bah un remaster, pardon, je me paume dans mes mots pour rien, encore un remaster, à savoir Saga Scarlet Grace Ambition, que moi je connais pas, mais qui a l'air d'être, enfin avec le trailer qui m'avait l'air d'être plutôt sympa à voir. Ils ont aussi annoncé la sortie du jeu Avenger, qui a aussi fait un beau petit carton quand même. Moi il m'a pas trop hypé plus que ça, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un bon petit jeu à jouer. Et puis ils ont aussi annoncé assez rapidement aussi le DLC sur Kingdom Hearts 3, qui s'appellera, attendez je retrouve le nom, Remind. Ensuite, maintenant, on va finir par les jeux attendus. Alors, on va commencer par un Dragon Quest. Donc, à savoir Dragon Quest Builder 2. Donc c'est un petit peu le Dragon Quest version Minecraft, à savoir qu'en fait, vous aurez du combat, de l'exploration, du craft. Donc pour ceux qui savent pas, le craft, c'est en fait de la construction. Vous allez devoir récolter des ressources pour faire du crafting, etc. Un peu comme un Minecraft. Sauf que là, ça sera du coup dans l'univers Dragon Quest, qui est quand même une des grosses sagas de ces derniers temps avec les FF. Contrairement au premier builder, là, vous aurez la possibilité de jouer en multijoueur, ce qui est assez sympa. Et du coup, ça permet aussi dans le premier, à ce que j'ai compris, il y avait un système de 4 îles, et vous vous déplacez d'île en île, en fonction, peu à peu après l'histoire, en fonction de où vous en étiez dans l'histoire. Là, ça sera en monde ouvert. Voilà. Je vais pas vous spoiler le gameplay. Je vous laisserai le découvrir. Alors, le jeu sort le 12 juillet de cette année, donc c'est dans pas longtemps. Et là, il y aura une démo qui sera disponible sur la PlayStation Store à partir du 27/6, donc à savoir dans 5 jours. Si vous voulez l'essayer un peu pour voir ce que ça donne, allez-y, je vous en prie. Moi je verrai pour le tester un petit peu aussi. Ensuite, dans ce qu'on attendait, on avait War of Vision, FF Brave Exvius. Donc ça sera un tactical RPG. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les RPG, c'est jeu de rôle. Et un tactical, ça veut dire en fait c'est un jeu tactique, de stratégie. Voilà. Donc ça passera dans un environnement de Final Fantasy où le but sera de conquérir quatre autres royaumes, enfin les quatre autres royaumes dans cet univers. En tout, il y a 5 royaumes. Pour devenir un peu le souverain ultime. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Il y a pas encore trop d'infos dessus. On a juste vu les noms des royaumes et leurs héros. Vite fait compris un petit peu leur histoire, je vais pas développer. Et petit truc bien sympa, c'est que du coup ça sera un jeu sur Android, donc sur téléphone. Du coup c'est à voir comment ils vont développer ça aussi. Moi je vais regarder un petit peu dès qu'ils donneront un peu plus d'informations. C'est un jeu qui est encore en cours de développement, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup plus d'infos. Et alors là, je vais essayer d'en parler succinctement et rapidement, parce que ça fait déjà près de 7 minutes que je présente Square Enix. On va parler... Non messieurs, laissez-moi, il faut que les gens chassent. On va parler de Final Fantasy VII Remake. Alors, juste rapidement, parce que je pense qu'il y en a qui savent pas, il y a une très grande différence entre un remake et un remaster. Un remaster, en fait, vous gardez la version d'origine, c'est juste que vous améliorez un petit peu tout ce qui est pixel, vous avez peut-être un petit peu touché au gameplay pour que ça soit un peu plus moderne, mais le jeu en soi va être pareil que l'ancienne version. Un remake, vous refaites tout le jeu. Et là, c'est ce qui se fait avec Final Fantasy. Ils refont tout le jeu. Là, on n'est plus en tour par tour, on n'est plus en tour par tour un par un, on sera en tour par tour en temps réel. Les ennemis vous attaqueront en même temps que vous les attaquez. Donc c'est ce qui se fait plutôt dans les Final Fantasy depuis un sacré moment. Alors, on a eu une date de sortie qui sera donc, malheureusement, va falloir encore un peu attendre, messieurs, dames. Malheureusement. Encore 9 mois. Parce qu'il sortira le 3 mars 2020. Donc apparemment, l'E3 était le parfait moment pour Square Enix pour présenter tout ce qui était mécanique de jeu, images cinématiques, gameplay de ce jeu, qui est quand même vachement attendu. Donc comme je vous ai dit, on passe du tour par tour, tour en temps réel. Là maintenant, dans une des mécaniques, on parle d'une barre d'ATP qui en fait sera une sorte d'espèce de barre d'énergie ou de furie qui augmentera avec les attaques, qui augmentera petit à petit en fonction de vos attaques, des attaques que vous allez faire pour finalement lancer une grosse attaque. Qui sera en slow motion. En fait, ça active. Dès que la barre sera activée et que vous l'utiliserez, vous passerez en mode ralenti pour choisir l'ennemi que vous voulez attaquer et quelle action vous voulez faire. Comme dans le premier, vous allez contrôler plusieurs personnages qui auront chacun leur capacité, leur technique leur stratégie de jeu. Là, ils ont juste présenté les deux premiers joueurs, à savoir, enfin, les deux premiers personnages, à savoir Cloud et Barrett. Donc, Cloud qui est un guerrier, Barrett qui est un gars avec une mitraillette dans le bras, donc c'est plutôt quelqu'un à distance. Ils ont montré un des premiers gros combats du jeu aussi, pour montrer un petit peu les mécaniques de gameplay. Où en fait, vous aurez la possibilité de changer de personnage. Donc quand vous, par exemple, quand vous contrôlez Cloud, Barrett sera contrôlé par une IA, pas entièrement débile quand même, heureusement. Et si vous switchez sur Barrett, l'IA prendra le contrôle de Cloud. Voilà, c'est que du coup vos personnages seront toujours en mouvement et toujours en train de se... Je vais m'arrêter là, parce que c'est tout ce que j'ai noté pour pas continuer plus loin, parce que honnêtement, vu toutes les informations qu'ils ont données, on peut en parler facilement pendant une demi-heure.
De toute façon, les liens dans le Google Excel qu'on vous donnera, et vous pourrez aller regarder toute la...
De toute façon, rendez-vous à l'épisode je sais pas combien de Burger Game qui sortira en mars 2020. On en reparlera. Et donc pour Square Enix, comme j'ai dit, c'est une conférence plutôt sympa à regarder. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder. C'était vraiment celle où j'ai trouvé qu'il y avait la meilleure ambiance entre les développeurs. D'ailleurs, il y a les développeurs de FF7 Remake, c'est eux qui sont présentés les mécaniques de gameplay. Là, ça a pas été les chefs de projet. Là, c'est vraiment été les deux Japonais qui ont travaillé ardemment sur ce projet. J'ai oublié leur nom, autant pour moi. Mais donc, c'est eux qui ont présenté le jeu.
Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que Nintendo a fait un peu ça aussi sur certains trucs. S'ils me permettent de passer à Nintendo comme ça. Ok, donc moi, la conférence Nintendo que j'ai trouvée. Je trouvais que c'était la meilleure parce que c'était la plus concise et celle qui a permis, quand même, en 40 minutes, de présenter 41 jeux. Donc c'est pas rien, beaucoup mieux que l'année dernière, parce que l'E3 l'année dernière avec Super Smash c'était horrible, c'était trop long. Enfin, voilà. Donc cette année j'ai trouvé que Nintendo, et même je trouve que Nintendo depuis un certain moment est vraiment ultra bon dans sa communication. À chaque fois qu'ils font des Nintendo Direct, ils ont un gros truc à annoncer, ils font pas trop de temps dessus, enfin je trouve que là ils gèrent extrêmement bien leur truc. Et ça tombe bien qu'ils soient dans cette bonne posture-là, puisque la Switch marche bien. Et du coup, ils sont vraiment dans la meilleure posture qu'ils peuvent être, je pense, à ce moment-là. Alors, pas mal de jeux qu'ils ont annoncés. Donc, je disais 41. On va revenir un petit peu sur quelques trucs. J'ai pas parlé de tout. Allez voir toute la liste. Mais en très gros, deux DLC sur Super Smash Bros. Ultimate. Un avec des personnages de Dragon Quest, le héros de Dragon Quest. Un avec Banjo-Kazooie, le petit trailer avec le troll sur le chien de Duck Hunt était très drôle. Allez voir à toute fin de la conférence Nintendo. Petit truc assez drôle quand même sur la présentation. Il y avait le président japonais et pour la première fois le nouveau président américain qui s'appelle Bowser. Ils se sont amusés dessus. C'était cocasse, on va dire. Mais c'était bien fait. Et j'ai trouvé que les dirigeants, bon, ils font souvent les présentations maintenant chez Nintendo, mais ils jouaient pas trop mal. Franchement, ça a pu être trop surjoué, etc. Ils jouaient pas trop mal. Donc, bravo, Nintendo. Ils l'ont peut-être refait plein de fois, mais en tout cas, c'était bien fait. On a eu pas mal de gameplay sur Luigi Mansion 3, une suite aux deux premiers, qui étaient sortis sur GameCube et Nintendo DS. Donc là, on va pouvoir attraper les fantômes et les projeter, un peu comme dans Astérix et Obélix XXL, là, quand on faisait ça avec les Romains. Donc c'est un peu ça va être assez sympa avec la ventouse. On va pouvoir faire une bourrasque, soi-même en tournant sur soi-même pour éloigner les fantômes. Et surtout, on va pouvoir avoir un jeu coop sur Luigi Mansion 3. On va pouvoir dupliquer Luigi. Par contre, ça ne sera pas vraiment Luigi, ce sera une espèce d'ectoplasme. Alors on pourra le faire tout seul aussi. Mais en gros, ça permettra en fait de passer dans certains endroits, les épines, etc. Tu ne pourras pas les passer, tu seras obligé d'utiliser cet ectoplasme pour avancer dans le jeu. Donc franchement, j'ai jamais joué à Luigi Mansion, mais là ça me donne vraiment vraiment envie. On a vu plus de gameplay sur The Legend of Zelda Link's Awakening. Rien de bien surprenant. Moi j'aime beaucoup les graphismes, en tout cas ils font un peu pâte à modeler. Rien de bien surprenant, ça reste dans la lignée des Zelda 3DS, etc. Le gameplay, rien de nouveau. Par contre, sorti le 20 septembre 2019, ça approche. Je pense que pas mal de gens vont l'acheter. Un nouveau Trials of Mana qui arrivera au printemps. En attendant, on peut profiter de la Collection of Mana sur la Switch dès aujourd'hui. Donc ça, c'est des vieux jeux aussi. Je connaissais pas, j'y ai pas joué, mais je connaissais quelqu'un qui m'en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est quand même des gros jeux. The Witcher 3 qui arrive sur la Switch. Alors, je sais que ça en fait rager certains, donc peut-être un peu stalas. parce que les graphismes, forcément, sont plus dégueulasses. Mais c'est pas ce qu'on demande à la Switch d'un autre côté. Ça permettra à un autre public de jouer à The Witcher 3. Puis si t'aimes pas les graphismes de The Witcher 3 sur la Switch, en même temps, rien ne t'oblige à l'acheter. Donc, voilà, tout va bien. Il y a pas, on va pas non plus, je trouve quand même que c'est, faut quand même féliciter le studio qui a réussi à faire rentrer The Witcher 3 sur la Switch.
Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a les mêmes bugs sur Witcher 3 sur la Switch qu'il y a eu sur et qu'il y a encore, je crois, sur PS4, alors que le jeu a sorti à après 5 ans d'intervalle, quoi.
Mais c'est pas. Enfin voilà. Pour, je suis pas fan de la série, mais je sais qu'il y en a qui sont fans. Encore plus de Resident Evil qui arrive sur la Switch. Pour Halloween, vous aurez le 5 et le 6 qui vont sortir. Il y a déjà le 0, etc. On a eu l'annonce d'un Mario et Sonic au JO de Tokyo. Ça aurait été con de passer à côté. Mais c'est sympa d'en avoir un nouveau sur Switch, en fait, parce que c'est toujours un petit jeu sympa quand tu joues avec plusieurs personnes. Donc, ça sortira en novembre 2019. Animal Crossing a été repoussé au 20 mars 2019. Il a l'air vraiment trop bien, mais il est repoussé. Alors, de ce que j'ai pu voir un petit peu en cherchant un peu des news, c'est que ça a été repoussé parce qu'en fait, dans les derniers mois de jeu, les développeurs, ils sont à fond, enfin, ils font des heures sup de malade. Et ils auraient été faire des heures sup de malade pour Noël. C'était pas cool et Nintendo a décidé, ils se sont pas vantés à l'E3, mais a décidé de repousser la date plutôt que de faire ça. Donc, sympa. Et enfin, on vous avait promis de faire une émission spéciale E3 et Pokémon Direct. On l'a pas oublié. On voulait juste garder pour la fin. Et après, j'ai encore un autre truc à la fin. Mais alors voilà, Pokémon. On en a appris beaucoup plus avec ce Nintendo Direct, etc. Déjà, on va avoir un monde semi-ouvert. Il y a des endroits où le monde sera ouvert un peu comme à la Zelda, avec des paysages à la Zelda, où on pourra voir les Pokémon dans les hautes herbes se déplacer, enfin à côté, que ça voler, etc. Hyper bien. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir voir les Pokémon comme ça. C'est vraiment trop bien.
Déjà dispo dans Let's Go Pikachu ou Let's Go Evoli.
Voilà, mais t'en avais que 150. Et t'étais en vue de dessus, c'était pas vraiment même si le truc est fait en 3D, c'est pas, là t'as la caméra libre pour te déplacer, donc c'est plutôt sympa.
Ouais, mais oui, ça c'est sympa en vision. Après, il y aura pas non plus les 950 Pokémon.
Ah, mais me spoil pas tout. Le reste des Pokémon seront aussi attrapables dans les hautes herbes un peu partout, mais non visibles. Donc ça fait un mélange de gameplay, je trouve ça assez sympa. La capture à l'ancienne revient, pas d'utilisation de la Pokéball Plus à part pour peut-être mettre son Pokémon à l'intérieur et avoir des petits trucs. Les légendaires ont été dévoilés, Zacian et Zamazenta, un Pokémon bouclier et épée forcément. Hein. Et on va rentrer dans les grosses polémiques, qu'il n'y a pas eu de Pokémon Direct, mais qu'il y a eu à l'E3. C'est pour ça que j'ai attendu, on vous en parle en même temps que l'E3, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors la nouvelle fonctionnalité de combat Dynamax, elle n'a pas l'air super ouf. Ils ont annoncé en fait ton Pokémon pourra être gigantesque pendant 3 tours. C'est cool, c'est marrant.
Mais ça sert à rien.
Mais ça sert pas à grand chose. Et ils ont annoncé que tout ce qui était Méga Evolution et Force Z, alors Force Z j'ai un peu moins fan, mais Méga Evolution je trouvais ça cool, ne serait pas présent dans le jeu. Ça commence à faire rager les fans déjà. Et deuxième gros truc, pas de Pokédex national comme dans Pokémon Soleil et Lune, mais tous les Pokémon qui seront pas dans le Pokédex national ne seront pas importables dans Pokémon. Et là, la communauté s'est enflammée, je pense que vous aussi. On pourra pas transférer tous les Pokémon sur Pokémon et on pourra pas attraper tous les Pokémon. Attraper-les tous n'est plus le slogan du jeu, dirons-nous. Il y a beaucoup, beaucoup de messages sur Internet, beaucoup de mails qui sont envoyés au support Nintendo qui ne peut pas répondre parce que c'est le support et c'est pas Game Freak. Enfin voilà. Il y a vraiment un gros truc dessus. Alors, moi j'espère, pour le jeu, pour la sortie du jeu, je pense que c'est mort. On va pas se mentir, c'est mort. Le jeu sort, il sort cette année au mois d'octobre, je crois, un truc comme ça. J'ai plus la date, j'ai pas noté la date. Mais enfin, là, c'est beaucoup trop rapproché de maintenant pour qu'il puisse faire quelque chose. Par contre, j'espère qu'il puisse faire un DLC après. Ça sortira le 15 novembre, voilà. J'espère qu'il puisse faire un DLC après. Je m'explique, bah, sur Super Mario Maker 2, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de mode multijoueur en ligne et sur, c'est plus quel, sur les jeux téléchargés en ligne, je ne sais plus trop quoi. Les joueurs ont râlé, mais pas tant que ça, parce que c'est beaucoup moins que Pokémon, beaucoup moins attendu. Et ils ont survolé en arrière. Franchement, si Pokémon dit ok, pour la sortie du jeu, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Par contre, on vous fera des patchs gratuits pour rajouter les Pokémon, ils auront tout gagné. Niveau com, c'est encore mieux que de les avoir proposés directement, parce que là, tout le monde sera content. Parce qu'en fait, les plus gros défauts, bah, en fait, auront caché les plus petits, et du coup, ils sont tous contents d'avoir ça. J'espère vraiment que, enfin, la communauté Pokémon, s'échauffant là-dessus, je pense j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour ça. Donc, à voir, à suivre, on vous en parlera dans Burger Games. Moi, en tout cas, je suis un peu positif là-dessus. Je pense qu'ils feront quelque chose, mais j'en suis pas certain. Et enfin, la plus grosse annonce. En tout cas, c'est ce que disent les gens. Ouais, la plus grosse surprise. La plus grosse surprise de l'E3, parce que FF7, on s'y attendait. Donc, c'est la plus grosse annonce, je pense, FF7, on va pas se mentir. La plus grosse surprise, c'est le prochain Zelda. La suite de Breath of the Wild. Mais vraiment, la suite, ça va se passer juste après. Avec une vraie cinématique de 1 minute 30. Un Zelda qui a l'air plus sombre. Je pense que ça va être un truc un peu à la Majora's Mask, assez sombre. Tout le monde, tout de suite, a vu les cheveux de Zelda courts. À penser au fait que Zelda allait avoir les cheveux avait les cheveux courts et qu'elle allait pouvoir jouable puisqu'elle est très très présente dans le trailer. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette émission riche. En fait, je pense qu'on aura fait 1 heure d'émission. Ouais, facile. Ça fait beaucoup d'émissions d'émissions. On n'a pas pu faire moins. On a résumé le plus possible tout ce qu'on pouvait vous dire. J'espère que vous avez, vous, les infos qui vous intéressent, que vous êtes hypé par certains jeux. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes hypé par certains jeux. Quelle est votre conférence préférée parmi Zelda? On va mettre des petits sondages dans la vidéo. Si vous préférez celui de Nintendo, de Square Enix ou Devolver ou Bethesda. On va prendre les meilleurs de la conférence, des conférences ou autre chose. Sur ce, on vous souhaite une bonne nuit, bon appétit, bon réveil en fonction de quand est-ce que vous écoutez cette émission. N'hésitez pas à jouer, à nous dire si vous voulez qu'on parle de certains jeux vidéo, tiens, durant la prochaine émission. En tout cas, ce sera toujours à vous de nous dire si vous voulez qu'on parle de quelque chose. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission de Burger Games. Ça fait beaucoup de Burger Games, mais celle-ci, il fallait qu'on la fasse, c'était une spéciale E3. Et sur ce, à plus. Parce que je peux pas dire bonne nuit, bonne fin de journée. À plus tout le monde et à la prochaine. Ciao!
À très bientôt et à dans 2 semaines.
Votre émission d'actualité jeux vidéo Burger Games spécial E3.